Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Vac FM. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui fait vibrer les débats politiques et surtout l'opinion publique, l'immigration. Si j'ai choisi de traiter ce sujet aujourd'hui et de le mettre en lumière, c'est justement pour montrer un autre côté que celui que les médias mettent très souvent en avant, d'étaler la réalité en face et les difficultés que ces gens endurent au quotidien, et leur donner une importance, même minime, au lieu de les considérer comme des nombres dont l'augmentation nous fait peur et nous impose des risques. Surtout avec ce qui se passe au niveau politique ces derniers temps, avec les nouvelles lois qui viennent d'être votées et dont on va parler dans quelques instants. Il me semble donc important d'éclaircir la situation migratoire en France, qui représente aujourd'hui 10% de la population totale, avec des gens qui justement côtoient ces personnes et savent leur quotidien. Ces gens qui sont présents aujourd'hui, Claude de la CNAM, Brigitte de la CIMAD et Mariana d'Attac. Donc je vous laisse Claude, s'il vous plaît, présenter la CNAM, son histoire et à qui elle s'adresse.
Bien, et bien bonjour à tous. Alors la CNAM, Association catholique nivernaise d'accueil des migrants, créée fin 2014, création récente, qui a été voulue par l'évêque de Nevers sous l'impulsion du pape François, très soucieux de la situation des migrants. Donc la CNAM a été créée sur le territoire de la Nièvre, dans un premier temps pour procurer aux déboutés du droit d'asile, mais on reviendra peut-être à cette notion de débouté, pour procurer un logement à ces personnes, puisqu'ils ne bénéficiaient plus d'aucune prise en charge. Donc la mission principale a été l'accueil de ces personnes, femmes, enfants, familles, pour qu'elles puissent continuer à être scolarisées, continuer à évoluer dans notre société. En parallèle de ça, le deuxième volet a été l'accompagnement de ces personnes, dans le sens où ces personnes sont amenées à faire beaucoup de déplacements pour leur démarche, et nous les accompagnons dans cette activité.
Je reviens à ce que vous avez dit par rapport au logement, mais M. Darmanin, le Premier ministre, a laissé entendre que ces gens sont déjà bénéficiaires de logements sociaux, donc pourquoi vous les aidez? Pourquoi ils ne peuvent pas prendre en charge leur loyer, etc.?
Alors, dès l'instant qu'on est débouté du droit d'asile, on n'a droit à rien. On n'a plus aucune ressource. Donc on peut assumer aucun loyer. On ne peut... Et donc nous, souvent, on a accueilli des personnes, justement, qui étaient sorties des droits sociaux et sorties des logements type HLM, type centre d'accueil demandeurs d'asile, enfin, toute structure d'État. Et c'est à ce titre-là qu'on les accueille. On accueille environ 85 personnes sur notre secteur de la Nièvre, qui sont hébergées sur Nevers, la Nièvre. Alors, je peux dire un mot des logements, parce que les logements, ils sont mis à disposition de deux façons. La première façon, c'est le diocèse de Nevers qui nous a mis à disposition des locaux vacants. Le deuxième volet, ce sont des particuliers qui, par choix personnel d'aider les personnes, mettent à disposition un logement. Étant entendu que cette mise à disposition de logements génère des coûts importants, coûts de l'eau, l'électricité, gaz, enfin j'en passe, etc. Et notre association, l'Association catholique nivernaise d'accueil des migrants, assume la charge de fonctionnement de ces logements. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle contribue à payer de façon à ce que la personne qui met à disposition, bah, ça lui coûte le moins cher possible.
Et donc, pour soutenir votre association ACNAM, l'EGM 58 prévoit un concert au hall des expositions le 7 janvier. Qu'est-ce que l'EGM 58 et pourquoi ce concert a été mis en place?
Alors, je vais parler au nom de la CIMAD. Les EGM 58, ce sont divers acteurs et associations qui se concertent et travaillent ensemble pour mettre en place des actions et des mobilisations afin de contrecarrer la politique migratoire actuelle. Et donc on est ici tous représentants, membres de ce groupe, regroupement d'associations. Voilà.
Donc vous êtes membre de la CIMAD. Qu'est-ce que la CIMAD concrètement et c'est quoi un peu son histoire?
Alors la CIMAD, c'est une vieille dame, comme dit notre présidente Christiane. Elle est née en 1939 pour aider les personnes qui étaient évacuées d'Alsace-Lorraine. Et puis, bon, elle a grandi. C'est une association nationale qui a des groupes locaux dans toute la France. Et nos actions, c'est défendre les droits des personnes et les aider à obtenir leurs droits et à les conserver, que ce soit juridiques, sociaux, etc. À faire des actions de sensibilisation pour que le public se rende compte de la situation et intervenir auprès des politiques pour essayer de faire changer la politique. Bon, ça c'est un travail très ardu.
Donc vous aidez aussi les personnes qui sont logées par la CNAM ?
Voilà, on est complémentaires, on travaille vraiment main dans la main, puisqu'on va intervenir plus sur le côté juridique administratif pour les aider petit à petit à obtenir les documents nécessaires à la demande de carte de séjour.
D'accord. Et avant d'approfondir un peu le sujet, est-ce que vous pouvez faire les différences entre migrants, étrangers, clandestins ? Parce que c'est des termes qui se mélangent très souvent dans les médias, etc. C'est pas très clair, parfois, pour certains.
Alors, le terme général, c'est exilé, des personnes qui quittent leur pays. Donc, on dit parfois migrants, etc. Très peu viennent, par rapport à tous ceux qui fuient leur pays, très peu viennent en France, malgré tout. Et donc, quand ils arrivent en France, ils font généralement une demande d'asile, s'ils ne sont pas venus pour rejoindre leur famille ou trouver du travail. Mais en général, ils demandent de l'asile. Donc là, ils sont demandeurs d'asile. Si la demande d'asile, enfin la protection de la France leur est refusée, ils sont déboutés de l'asile et ils deviennent sans papier.
Et donc là, si une personne vient pour avoir de l'aide de votre part, soit pour la CNAM, la CIMADO, ATTAC, quelles sont les premières étapes pour les aider ?
C'est connaître là où ils en sont. Est-ce qu'ils viennent d'arriver ? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps ? Est-ce qu'ils ont déjà eu un titre de séjour ? Est-ce qu'ils veulent faire une demande d'asile ? Et puis, quels sont leur environnement ? Il y en a qui sont conjoints de Français, il y en a qui sont conjoints de réfugiés, il y en a qui sont nés en France. Donc, tout ça, c'est des critères qui leur pourraient leur permettre d'obtenir un titre de séjour, ou qui ont travaillé, ou qui travaillent au noir. Voilà.
Même des personnes clandestines qui n'ont aucun papier ?
Voilà, c'est ces personnes-là, oui, clandestines, sans papier. On essaye de trouver tout ce qui permet de leur faire acquérir des papiers. Donc la CNAM travaille aussi beaucoup là-dessus, en les aidant à trouver leur place dans la société.
Vous travaillez aussi avec des mineurs ?
Alors, on n'a pas le droit de travailler avec des mineurs. Mais on accueille souvent des jeunes qui arrivent en France, qui eux se disent mineurs. Donc on les oriente vers le service départemental d'aide à l'enfance. Et puis si ensuite ce service ne les reconnaît pas mineurs, on les aide à faire des recours au tribunal, auprès du juge. Voilà, parce que eux disent qu'ils sont mineurs, les services d'État disent qu'ils sont majeurs. Donc voilà, il y a tout un travail de recours au tribunal.
Et donc on entend très souvent dans les médias et autres la phrase « ils n'ont qu'à retourner chez eux ». Comment vous réagissez, vous, face à ces propos ? Vous qui avez fréquenté ces gens, connaissez leur situation ? Pourquoi ils veulent ou ont besoin de rester en France, absolument, et pourquoi ils viennent déjà en France au début ?
Alors, bon, ils ont fui une réalité tellement horrible que tout sauf le retour au pays, ils sont prêts à tout. On voit bien, s'il y a tant de morts sur les chemins d'exil, ça matérialise bien le fait que ces gens sont prêts à prendre tous les risques, risquer leur vie, leur famille, leurs enfants, pour venir. Donc surtout pas retourner au pays, reconnaître l'enfer qu'ils ont connu. La CIMAD rédige les récits de demande d'asile, on mesure bien l'horreur de toutes ces situations. Donc face à ça, la balance, elle est vite faite. On prend tous les risques, mais surtout pas retourner au pays.
Et à la CIMAD, vous adoptez aussi une politique de sensibilisation. Et c'est pourquoi vous organisez un festival annuel qui se déroule du 12 novembre au 4 décembre. Et du coup, j'ai eu la chance de me rendre au Café Charbon à Nevers pour assister à ce concert qui a clôturé cette édition le samedi 3 décembre. Je vous laisse donc avec un petit reportage que j'ai pu réaliser avec Sylvie, une bénévole de la CIMAD, et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Du coup, aujourd'hui, on est au Café Charbon pour le festival Migrants en scène. Est-ce que vous pouvez me dire comment cette initiative de créer ce festival vous est venue ? La première fois.
Alors en fin de compte, c'est pas une initiative qui nous est venue à nous, puisque c'est un festival national qui a lieu sur toute la France à peu près à la même période, vers le 12 novembre par là jusqu'au début décembre. Mais en fait, dans un premier temps, sur la Nièvre, il n'y avait pas de festival. Et puis un jour, il y a des personnes qui se sont lancées parce que ça demande quand même pas mal d'énergie. Et donc le premier festival Migrants en scène. Je ne saurais plus dire de quand ça date exactement, mais enfin, on en a déjà fait, je dirais au moins 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Hein.
Et pour organiser ce festival, quelles sont les premières étapes à mettre en place?
Alors en fait, on est peut-être une douzaine de bénévoles à la CIMADE à Nevers, et donc on a différentes tâches. Il y a des personnes qui ne s'occupent que des dossiers des étrangers qui viennent nous voir pour les aider à régler leurs problèmes juridiques. Et puis, il y a des personnes qui ont plus de temps à consacrer ou qui ont fait le choix de travailler sur le festival Migrants Scène. Alors on a un petit groupe de 5-6 personnes. Et donc, on commence à se réunir dès le mois de janvier pour le festival qui aura lieu donc en novembre. Donc, les étapes, on commence par faire des propositions un petit peu en vrac et aussi en fonction de ce qu'a été le festival l'année précédente. Bon, cette année, on a proposé 4 principales actions, en fait. D'autres années, on a pu en proposer un peu plus. Et puis, au fur et à mesure, après, on prend des contacts, bien sûr, avec différentes, déjà des partenaires et puis des artistes. Après, il y a tout le montage financier aussi qui est organisé, qui est un peu compliqué. Mais bon, on avance réunion par réunion, à peu près tous les 2 mois au début, puis après, ça se rapproche au fur et à mesure qu'on se rapproche du festival.
Et quel est le but derrière ce festival, outre que le côté artistique, bien sûr?
Alors, autre que le côté artistique, c'est avant tout de faire connaître les réelles situations des migrants, parce que je pense que à travers ce qu'on entend à la radio, il y a des tas de préjugés, d'idées fausses. Donc c'est un moyen de mieux faire connaître la réalité des migrants, et puis aussi de faire connaître la CIMADE, notre action à la CIMADE.
Ici, là, je vous disais que tout le monde pouvait vous entendre, vous écouter. Quel serait votre message à transmettre au monde? Qu'est-ce que vous incitez les gens à faire ou à pas faire?
Oh là là, c'est difficile d'inciter les gens à faire ou à ne pas faire, mais en tout cas, je leur dirais, c'est difficile, hein, je leur dirais avant tout de se méfier des médias, parce qu'en fin de compte, là c'est un gros gros problème. Tout ce qui est diffusé dans les médias, c'est quand même beaucoup beaucoup de choses fausses. Donc déjà, d'une manière générale, de prendre des informations auprès des gens concernés directement pour se faire leur propre opinion. La deuxième question, c'était quoi?
Quel message?
Ah, quel message? Un message de tolérance, bien sûr. Un message de tolérance, surtout en ce moment où on sent qu'il se prépare des choses... pas très agréable pour les migrants, puisque ce dont on a entendu parler jusqu'à présent, c'est quand même de chercher par tous les moyens à renvoyer les migrants chez eux, en fait. Donc, pour nous, ça va être difficile. Déjà que c'est pas très facile, c'est très long pour certaines personnes d'obtenir des papiers, par exemple, ou même d'obtenir l'asile, tout bêtement. Et là, ça va devenir de plus en plus difficile. Ce qu'on a entendu là, c'est que ce qu'on appelle les OQTF, obligations de quitter le territoire, seront peut-être bien plus nombreuses, et ils vont chercher à faire en sorte qu'elles soient très vite appliquées et que les gens soient renvoyés chez eux, alors que nous on est plutôt dans une attitude évidemment d'accueil et de tolérance. Donc ça nous inquiète beaucoup.
Donc vous êtes plutôt pessimiste par rapport au futur?
Alors on est pessimiste, mais en même temps, ça fait des années que la CIMADE lutte et on continuera à lutter. Donc en ça, on garde toute l'énergie qu'il faudra. Mais même si c'est plus difficile, on aura quand même des victoires. Donc en ça, on peut dire qu'on reste optimiste, même si la situation qui s'annonce là nous paraît quand même assez grave, quoi. Mais bon, on va de l'avant et on continue parce qu'on y croit.
Et qu'est-ce que vous a poussé à devenir bénévole, personnellement?
Alors, si c'est personnellement, j'en avais entendu parler déjà par des personnes de mon entourage, hein, et qui me parlaient des activités qu'elles faisaient à la CIMADE et comment ça se passait. Et j'avais envie justement de rencontrer vraiment les personnes qui venaient de différents pays. Et parce que moi, comme les autres, au départ, j'étais peut-être victime de préjugés, d'idées fausses. Et en rencontrant ces personnes, humainement, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Donc, pour moi, la rencontre, c'est quelque chose d'important. La rencontre avec une grande diversité de personnes, hein, c'est ce qui m'intéresse, je pense, le plus à la CIMAD.
Donc, vous diriez que vos valeurs ont changé ?
Non, mes valeurs n'ont pas changé du tout. C'était celles que j'avais initialement, mais... Oui, on peut dire qu'elles se sont renforcées. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est parfois assez difficile, ce qu'on fait à la CIMAD, mais ça nous apporte beaucoup et ça reste quelque chose de positif où on se sent utile. Et donc, c'est quelque chose que, pour l'instant, je me sens de continuer le plus longtemps possible, surtout que les besoins vont peut-être grandir.
Donc, c'était une interview avec une bénévole de la CIMAD lors du festival Migrancine qui s'est tenu au Café Charbon à Nevers. Donc, c'est une très belle initiative. Êtes-vous fière de ce que devient le festival chaque année ?
Ben oui, on est fière parce que c'est... Enfin, fière, c'est peut-être pas le mot exact. C'est vraiment un temps d'échange, de rencontre, de débat dans des actions différentes. Il y a une soirée au Café Pot Commun, il y a eu des soirées cinéma, il y a eu le concert, il y a une après-midi jeu de société... Voilà, alors on aimerait toucher un public plus large par contre, des gens qui ne sont pas forcément très au courant de la situation, pour sensibiliser encore plus large. Voilà.
Oui, parce que je vous avoue que je n'étais même pas au courant de cela avant que je ne me rende là-bas.
Alors, c'est une leçon à prendre pour nous, voire à plus diffuser, trouver un moyen de diffuser ou des relais pour diffuser.
Et j'ai une question qui s'adresse à tout le monde. Vous qui avez fréquenté les gens... migrants, etc. Est-ce qu'il y a des clichés ou un cliché que vous entendiez souvent avant et en travaillant avec ces gens, vous avez découvert que c'était totalement faux ?
On peut prendre l'exemple que les migrants prennent le travail des Français. Ça, c'est un cliché qui est ancien. Et en fait, il s'avère que quand on parle aux employeurs qui arrivent à un moment ou à un autre à embaucher de nos ressortissants, entre guillemets, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de métiers en tension et que, bien sûr, des besoins sont là, réels, avérés. Et donc, on a vraiment besoin de ces personnes-là pour effectuer des travaux que certains Français répugnent à faire. Je prends l'exemple du secteur du bâtiment, de la restauration et autres. On a besoin de ces personnes-là. On a besoin de ces forces vives, surtout dans des départements comme la Nièvre, des départements vieillissants, où le besoin est encore plus sensible.
Et donc, il serait nécessaire de, par exemple, mettre en place une carte de séjour pour des métiers comme ça ?
Alors, ça se dessine un peu. Il semblerait que là, on souhaiterait peut-être faciliter un peu l'obtention pour les personnes qui veulent travailler sur des métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tension. Alors, bon, ça reste à voir.
Alors, c'est dans le nouveau projet de loi, mais en fait, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'il y avait une circulaire qui permettait aux préfectures de régulariser suivant... les métiers. Sauf que le problème en France, c'est que souvent les lois ne sont pas bien appliquées, disons. Donc on a des personnes qui ont travaillé au noir, qui ont des employeurs qui disent vouloir les embaucher. Il y a eu le jeune Ali qui a été expulsé récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, le jeune Malien. Il avait un employeur, il avait une promesse, et pourtant on le renvoie. Et donc la loi existe déjà, et là, bon, on ne sait pas pourquoi, ils font une 29e loi en 40 ans. Pour remettre, par contre, ils vont durcir. C'est-à-dire qu'on va les utiliser pour leur travail, mais ils n'auront pas le droit de faire venir leur famille. Enfin, ça va être comme des esclaves, un petit peu, pour moi. C'est ce qu'on essaye de dénoncer à la CIMAD aussi. C'est que là, on va essayer... Enfin, le gouvernement veut faciliter l'accès à la carte de séjour pour le travail, mais en fait, ils seront là que pour travailler.
Il y a aussi une exploitation des gens qui embauchent en noir. Parfois, ils veulent pas déclarer, etc., pour moins payer.
Alors, de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a de l'ordre à remettre. Parce qu'il y a des employeurs, bon, il y en a dans la Nièvre, pas trop, mais dans les grandes villes, oui, il y a des employeurs qui s'en débrouillent très bien. Ils payent moins, ils peuvent les mettre dehors à n'importe quel moment. Enfin, voilà, ils jonglent.
Et du coup, ces gens qui travaillent, ils n'ont pas le droit d'avoir recours à la justice, dans ce cas ?
À Paris, il y a des syndicats qui ont beaucoup travaillé... pour épauler ces personnes et les aider à acquérir un titre de séjour, mais bon, c'est toujours très compliqué parce que les personnes n'osent pas forcément le dire, elles ont peur de perdre leur travail, c'est très 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 complexe.
Pour moi, il est impératif de faire un écho aux réfugiés et migrants ukrainiens. Est-ce que vous avez déjà eu à aider ces gens-là ?
Alors, les personnes qui sont arrivées d'Ukraine, celles qui étaient ukrainiennes, ont toutes été prises en charge par l'État. Donc il y a eu toute une organisation, nous on n'a pas eu à intervenir. Par contre, on a eu à intervenir auprès, en général, d'étudiants qui n'étaient pas ukrainiens, mais qui vivaient en Ukraine depuis plusieurs années, donc qui ont fui l'Ukraine, la guerre comme tous les autres, et qui se sont retrouvés dans des conditions très difficiles, parce qu'ils ont eu une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, mais il fallait absolument qu'ils trouvent quelque chose, sinon ils sont obligés de repartir. Donc voilà, on a aidé 6 personnes, 7 personnes. Comme ça.
Et je sais qu'il n'est pas question de comparer les guerres, comparer l'incomparable, mais ne pensez-vous pas que ces réfugiés bénéficient de plus d'aide et de facilité que les autres ?
C'est un peu délicat toujours, de, comme tu dis, de comparer l'incomparable. Mais c'est vrai qu'on peut entendre par rapport à tout cet accueil des Ukrainiens et Ukrainiennes, que, alors que tu as des gens qui sont en France depuis tellement longtemps, qui demandent des régularisations, qui travaillent, qui payent des impôts, ce que tu viens de dire, Brigitte. Et là, tout d'un coup, c'est la voie royale. Et je trouve qu'on devrait aider tout le monde sans se poser de questions. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu un déséquilibre... Alors que tout le monde devrait être aidé de la même manière.
Mais ce qu'on trouve dommage, c'est par exemple quand les Syriens ou les Afghans ont eu des soucis, il y a eu un petit peu d'aide au début, puis en fait c'est très vite tombé à l'eau. Donc voilà,
ben oui.
C'est très bien ce qui a été fait pour les Ukrainiens, mais comme dit Mariana, il faudrait que ça soit étendu à tous.
Oui, puis bon, après je pense que c'est aussi des positionnements politiques. L'Ukraine, c'est très proche de l'Europe, et qu'est-ce qu'on veut faire, parce qu'il ne faut pas faire de l'angélisme, hein, qu'est-ce que veulent faire tous ces pays quand ils aident l'Ukraine à ce point-là, qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les envies des grandes sociétés d'aller en Ukraine pour reconstruire et tout ça? Parce que pour certaines personnes et sociétés, les malheurs, ça peut apporter beaucoup d'argent.
Donc ça reste quand même très politique. Et pour revenir à la loi dont j'ai parlé au début, par rapport au OQTF, qui devrait passer en 2023, pour mieux contrôler l'immigration et renforcer les obligations de quitter le territoire français. Est-ce que vous pensez que cette loi est au détriment de certains gens qui méritent d'être en France et d'avoir une situation régulière ?
Oui, en fait, il y a déjà les mesures normalement pour expulser une personne. Par exemple, si elle n'obtient pas l'asile, il est considéré qu'elle n'a pas vocation en France et ils reçoivent des OQTF. Tous ceux qui sont à la CNAM ont eu des OQTF. Mais c'est très difficile à appliquer, qu'il y a des enfants. Et surtout, il faut que l'accord du pays, d'où vient la personne. Et souvent, ces pays ne donnent pas l'accord pour que M. X ou Mme Y reviennent au pays. Donc déjà, c'est impossible à appliquer. Et en plus, on a des personnes, elles sont conjointes de Français, elles sont là depuis 5 ans, ils ont les enfants qui sont à l'école depuis 5 ans, elles ont fait un engagement associatif. Pourquoi elles n'ont pas leur place ? Normalement, ça fait partie de la Convention européenne des droits de choisir où vivre, où travailler. Et là, on leur ôte ce droit. C'est comme du bétail, quoi.
Et du coup, si une personne que vous aidez et qui n'arrive toujours pas à être régularisée, qui reçoit des OQTF sans cesse, à quelle limite ou à quel stade vous êtes prêt à la défendre ? Et quelles sont les dernières étapes quand il n'y a plus d'espoir ou très peu ?
Alors je dirais qu'au départ, quand ils ont une OQTF, on essaye de mettre en place le recours juridique au tribunal. C'est vrai qu'actuellement, justement, les tribunaux sont tellement engorgés qu'il y a rarement des réponses favorables. Et c'est là où intervient la CNAM, c'est qu'ils essayent de leur procurer un bien-être, un toit et une possibilité de continuer de vivre le plus sereinement possible, parce que c'est quand même pas toujours très serein. Afin qu'ils continuent, puis on espère que d'ici 4, 5 ans, 6 ans, qu'ils aient assez de documents pour pouvoir demander un titre de séjour.
Pour compléter, alors, ça suppose, comme l'a dit Brigitte de la Cimade, que ces personnes, on continue à les, entre guillemets, les alimenter, parce qu'ils ont des besoins comme tout un chacun. C'est pour ça qu'au niveau de la CNAM, on est partenaire privilégié avec Banque Alimentaire, puisqu'on organise des distributions de nourriture. On est partenaire avec tout ce que vous pouvez connaître, Resto du Cœur, Épicerie Solidaire, etc. Également, on les incite très fortement également aussi, et toutes ces personnes, à améliorer leur niveau de français. Ça, c'est un requis indispensable. On est très lié à l'AFPLI, l'Association Familiale de Prévention et de Lutte contre l'Illettrisme. Donc, ça suppose de l'argent, des moyens, des bénévoles, puisqu'on est toujours à la recherche de bénévoles, tout le temps. Et d'argent également, parce que on assume environ 85 personnes, ça veut dire que par mois, il faut qu'on trouve 5000 euros pour assumer tant bien que mal cette exigence. Surtout qu'en parallèle également, on fait aussi beaucoup de voyages. Ça, j'ai pas trop insisté, mais les voyages, par exemple, vous voyez, en 2022, on a fait 63 voyages pour emmener les personnes dans différents endroits, préfecture de région, OFPRA, OFI, etc., etc. On a fait 25 000 kilomètres. Ces 25 000 kilomètres sont assumés par des bénévoles qui ne facturent pas leur voyage à la CNAM. C'est du bénévolat pur et dur.
Vous demandiez s'ils étaient méritants. Et donc ça, c'est souvent un terme employé par l'État. Bon, on n'aime pas trop. Mais je pense qu'il y a des personnes, là, elles vivent, il y en a qui ont leurs enfants nés en France, elles ne demandent que ça. Travailler, mais on leur interdit de travailler. Enfin, elles ont plein de richesses à nous offrir et à partager avec nous. Mmh. Et c'est interdit. Et en plus, il y en a beaucoup qui nous disent que si elles retournent, indépendamment de la guerre ou certains des sévices, il y en a d'autres qui viennent aussi parce que chez eux, c'est le désert, il n'y a plus rien à manger. Et ils disent que s'ils retournent, ils sont rejetés par leur groupe social dans leur pays parce qu'en fait, ils ont raté. C'est l'échec. Donc, ils retournent chez eux et ils ne sont plus chez eux. Donc, voilà, moi, j'aime pas le terme méritant, mais ils sont là, ils font tout pour vivre bien et nous apporter, et voilà, et c'est incompréhensible.
Moi, je vais rebondir là-dessus, parce que bon, je fais partie d'ATAC, qui est l'association pour la taxation des transactions financières et de l'action citoyenne. Et en tant qu'association citoyenne, on fait partie des EGM, et on co-organise aussi la soirée du 7 janvier, soutien à la CNAM, pour récupérer des sous. Et alors, ce que j'aimerais quand même dire, parce que la base de toutes ces migrations, en fait, les gens n'ont pas envie de partir de chez eux comme ça, de gaieté de cœur, faut pas se leurrer. C'est que tout bêtement, on est dans un système, on va parler de la France, qui est hyper prédateur par sa fonction, par son capitalisme effréné, et donc qui ravage toutes les économies des pays les plus faibles. Et en plus de ça, ces pays qui sont quand même les moins polluants se prennent le dérangement climatique en pleine gueule. Les crises économiques aussi à répétition, et puis l'accaparement des terres, parce que nos pays, pour nourrir les vaches et le soja et tout ça, ça prend des hectares de terres vivrières aux paysans les plus pauvres. Donc ça amplifie toute la pauvreté, ça amplifie tout le phénomène migratoire. Là, on parle du phénomène migratoire sur les raisons climatiques qui sont de notre fait, pays riches. Phénomène migratoire économique de notre fait, puisqu'on accapare les terres, qu'on leur vole toutes les richesses, que ce soit et le pétrole et que ce soit les métaux rares. Donc, quand ils arrivent en France, je trouve que c'est quand même un tantinet cynique de leur dire de retourner dans leur pays alors qu'on a tout ravagé. Et aussi, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les lois se durcissent, mais sur les mauvaises raisons. Ça, c'est des raisons de calcul politique complètement inhumains. Et effectivement, il y a des gens qui arrivent après des années d'errance. Il faut savoir ce que c'est qu'une personne exilée qui choisit de quitter son pays, qui choisit des fois qui vivait bien dans son pays, pour toutes les raisons, c'est politique, c'est orientation sexuelle, c'est climatique, et tous ces gens, on va les refuser sous les prétextes les plus ignobles possibles, seulement pour des lois qui veulent favoriser un électorat.
Oui, puis fonder sur la peur, cultiver la peur, la peur de l'autre, c'est pas bien, ça va te tourner mal un jour.
Donc je vous propose de faire une petite pause musicale et d'en revenir bientôt.
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin, il hurle comme un fakir. de la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit « Ramons tous à la même cadence ». Dans le bar, il y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar et change ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
De retour sur BAC FM pour une émission consacrée à l'immigration. Je reviens à ce que vous disiez, Mariana, concernant le durcissement des lois, mais c'est aussi le cas dans les pays d'origine par rapport aux visas, etc. Donc il y a plus de personnes qui ont de plus en plus de mal à obtenir des visas et venir en situation régulière en France. Et parfois, ça les pousse à risquer leur vie en traversant la mer Méditerranée pour souhaiter avoir une chance en Europe. Et malheureusement, on compte des milliers de morts, hommes, femmes, enfants, chaque année, en tentant de traverser ce cimetière à ciel ouvert, comme on le dit. Et même le 5 novembre, des centaines de migrants étaient bloqués. Et l'Italie, avec son nouveau gouvernement, a adopté des mesures contre les navires humanitaires. Est-ce que cette situation, qui est de plus en plus tragique et qui se passe de plus en plus souvent, vous laisse un peu pessimiste quant à l'avenir?
Un peu.
je dirais...
un peu beaucoup.
On peut regarder deux côtés. C'est vrai que quand on voit que la Commission de l'Europe s'est réunie en urgence pour voir comment on refoulue les migrants, que la France... Mais regardez, la France les avait mis dans parquet dans une zone qui était hors État français. Mmh. Et en fait, les avocats, les associations, dont la CIMAD, se sont mobilisés. Et la plupart ont pu entrer en France. Je crois qu'il y a eu 3 renvois seulement sur tous ceux qui étaient parqués comme ça. Donc, je pense qu'il y a une lutte. Là, c'est une lutte corps à corps, je pourrais dire. Et puis, il y a l'opinion publique à travailler après l'exemple que disait Mariana. C'est vrai que les gens, ils entendent plein de discours à la radio, à la télévision surtout, qui ils n'ont pas le temps ou pas les moyens de réfléchir plus loin, et donc ils prennent ça au premier degré. Et donc, quand j'entends encore M. Darmanin, là, qui a dit « on veut bien ceux qui travaillent, mais pas ceux qui rapinent », ça laisse entendre que la moitié, enfin que tous les migrants, la plupart, rapinent. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est plein de petites phrases insidieuses qui instaurent dans l'esprit des gens une peur.
Oui, puis en plus, les phénomènes migratoires sont toujours restés équilibrés. Bon, peut-être que là, ça se déséquilibre un peu, mais depuis des siècles, il y a toujours eu des migrations dans tous les pays. En Afrique, ça circule en Afrique, dans les pays africains. Ensuite, quand les gens ils viennent en France, en général, ils repartent aussi parfois. Je veux dire, c'est des phénomènes qui s'équilibrent. Bon, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde, Il est possible qu'il y ait un peu plus de gens qui essayent d'arriver pour sauver leur peau, mais c'est pas non plus des hordes qui vont nous envahir. C'est de la folie, quoi. Et en plus de ça, les reconduites qui ont lieu, je le dis en passant, ça coûte une fortune entre les escortes, les avions, les magistrats qu'il faut mettre en place pour décider des reconduites. C'est des fortunes, des fortunes.
Mais ces situations démontrent bien les conditions de vie de ces gens. Parce que je ne pense pas qu'un homme ou une femme vont risquer leur vie, et souvent celle de leur enfant, pour le plaisir, pour avoir une vie similaire. C'est des situations extrêmes qui les poussent à faire ça.
Tout à fait. Alors, ils ne sont pas toujours informés des conditions dans lesquelles ils vont voyager, parce que malheureusement, alors ça, moi je serais d'accord avec le gouvernement, de lutter contre les réseaux de passeurs, les mafias qui se créent. Sauf que ces mafias deviennent de plus en plus dangereuses et de plus en plus graves, du fait de notre politique de fermeture de frontières. Ça permet à des gros mafieux, mais vraiment un scandale, de manipuler ces gens qui veulent l'exil. On leur fait payer des sommes exorbitantes, puis on leur ment tout le temps. Alors que si, comme vous en parliez tout à l'heure, si les visas s'octroyaient plus facilement, je pense qu'il y a des gens aussi qui viendraient peut-être 5 ans, 6 ans, le temps de se faire un pécule qui représente beaucoup dans leur pays, et de pouvoir repartir, construire quelque chose de solide dans leur pays. Mais comme ils n'arrivent pas à avoir les visas, ils choisissent d'autres voies très très dangereuses.
Voilà, là on parle de ce type de migration, mais il y a aussi les gens qui viennent qui s'imaginent encore que la France est un pays d'accueil. Et donc il y a aussi les gens qui veulent venir pour des problématiques politiques, qui demandent l'asile pour raisons politiques, parce que dans leur pays ils ont manifesté, ils ont été des leaders politiques. Il y a justement les questions de genre, les orientations sexuelles. Ce sont des gens, quand ils arrivent ici, ils sont déboutés de tout OFPRA, CNDA, qui ne repartiront jamais dans leur pays, parce qu'ils savent pertinemment que quand ils reviennent, c'est mort. Ils sont attendus, il y a les réseaux, et en général, ils sont tués très rapidement. Et des exemples dans les associations, il y en a quand même pas mal. C'est pour ça qu'ils se maintiennent sur le territoire français, parce qu'ils n'ont pas le choix.
Et donc je présume que par rapport à la préfecture et les dossiers, ça devient de plus en plus difficile d'avoir une réponse favorable.
Ça dépend beaucoup des situations. Ce qui complique, alors en ce moment on est au passage de la dématérialisation des procédures. Donc tout se fait par internet. Alors que ça soit pour nous, pour la sécu, pour n'importe quoi, ça rend les gens très dépendants, parce qu'il faut avoir un ordinateur, avoir une bonne connexion internet, savoir comprendre tous les questionnaires qu'on fait. Donc on aide des gens à faire. Et c'est vrai que souvent ça bug. Et après, la préfecture, comme on a mis ça en place, on a réduit le personnel. Donc déjà avant, c'était pas commode. Mais là, les délais sont de plus en plus longs. Et puis, il y a pas mal de demandes de titres de séjour qui sont laissées à ce qu'on appelle la discrétion du préfet. C'est-à-dire que c'est un peu cadré par la loi, mais quand même, on laisse le préfet prendre une décision. Et alors, une problématique, c'est qu'ils demandent régulièrement des documents complémentaires. Et encore des documents, et ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et puis, voilà, il y a des rejets ou des non-réponses. Des rejets comme Ali ou QTF, et puis mise à exécution. Il y a d'autres personnes où il n'y a pas de réponse. On les laisse sans réponse pendant des années. Parce qu'en fait, ils ont quand même, par exemple, ils sont mariés à un Français ou ils ont un enfant né en France. Donc, ce n'est pas si facile de les... On ne peut pas les expulser, mais en même temps, on ne leur donne pas de réponse. Comme ça, on les maintient bien dans un no man's land,
un
on appelle ça.
Et puis, la nouvelle loi aussi va piétiner beaucoup de choses, parce que ça va être de plus en plus... Les dossiers vont être vus par un juge unique. Ça veut dire que là, aujourd'hui, la personne passe devant l'OFPRA, n'a pas le statut, en général, fait son recours avec des délais très courts auprès de la CNDA, et là, avec de la chance, c'est une cour avec juge, assesseur et tout ça. Mais aujourd'hui, pour désengorger les tribunaux, ça va être le recours au juge unique. Ça veut dire que le ou la juge unique, si elle est de mauvais poil, si elle ne connaît pas le dossier bien, si elle ne connaît pas la problématique du dossier, ça va être terrible, ça.
Et donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez des professionnels qui travaillent avec vous, des avocats?
On est en lien, oui, avec des avocats. Alors, sur Nevers, on n'a plus tellement d'avocats spécialisés droit des étrangers. Donc, on a des avocats, des relais sur Dijon et Nantes. Et puis, sur Paris. Et puis à la CIMADE, eh ben, au niveau national, on a, alors ce ne sont pas des avocats, mais ce sont des juristes qui étudient la loi constamment, qui la mettent à jour, qui étudient. Et donc si on ne sait pas trop, on peut leur demander. Encore une aide de l'État qui existe encore, c'est ces personnes, comme elles n'ont aucun revenu, elles peuvent faire une demande d'aide juridictionnelle et n'ont pas besoin de financer l'avocat.
Et si les gens veulent aider vos associations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment ?
Je vais commencer. Bon, au niveau de la CNAM, comme je vous l'ai expliqué, donc on a besoin, c'est un peu trivial, mais on a besoin d'argent. D'argent parce que pour héberger 85 personnes, je vous laisse imaginer les factures correspondantes. Il faut beaucoup d'argent. Le coût de l'énergie va crescendo, etc. Bon, ça c'est l'aspect financier. Premier point. Second point, on a besoin de bénévoles. Parce que là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on fait beaucoup de voyages. Actuellement, on est 5 bénévoles pour assumer 27 000 kilomètres. Ne nous voilons pas la face, les bénévoles ce sont que des retraités, les trajets à Dijon, etc., bah, c'est quand même fatigant, c'est épuisant, c'est des journées entières. La préfecture à Dijon convoque les gens, ne s'occupe pas que vous veniez de Nevers ou de Quetigny ou de d'Auxerre ou de je ne sais où. Nous, des fois, convocation 8h30. Ça veut dire que le matin, il faut partir à quasiment 5h30. Donc on a besoin également de bénévoles. Et également, on a un besoin crucial au niveau de notre association. On est en panne là au niveau de la trésorier. Un poste clé au niveau de la CNAM, parce que bon, tous ces flux financiers, il faut les gérer. On a une comptabilité organisée, transparente, de qualité. Donc on a un besoin crucial d'avoir, de recruter un trésorier.
Et pour la CIMADE ?
Alors pour la CIMADE, bah, sur Nevers, c'est aussi du bénévolat. Le mieux, c'est de venir discuter avec nous, parce qu'il y a plein de demandes. Il y a l'accompagnement juridique et administratif qui est très prenant, donc là, il faut de la disponibilité. Après, il y a de participer, organiser des actions de sensibilisation, en inventer peut-être d'autres, hein, parce que voilà, on aime bien tout ce qui est nouveau et qui peut élargir. Et puis après, il y a peut-être aussi des actions, comme il y a beaucoup d'informatique maintenant, une aide pour entrer tous les dossiers sur informatique, une aide pour aussi accompagner des personnes dans certaines démarches qu'elles n'arrivent pas à faire et que nous, on ne peut pas toujours faire, accompagner à la CPAM et tout ça. Voilà. Faire peut-être des groupes de conversation avec des gens simplement pour leur faire visiter Nevers et qu'ils comprennent un peu où ils sont et comment vit notre ville, voilà.
Et donc vous avez combien de bénévoles à ce jour ?
Alors sur Nevers on doit être une douzaine à peu près, mais avec des engagements très différents. Hein, on est 6 à peu près, 5 peut-être, assurer vraiment des suivis de dossiers.
D'accord.
Oui, moi je voulais juste ajouter, bon, je ne l'ai pas dit, la CIMADE a aussi besoin d'argent bien sûr, et on peut être adhérent ou faire des dons si on n'a pas vraiment de temps de disponibilité temporelle pour apporter. Voilà.
Je voudrais quand même ajouter une chose. Il n'y a pas que le concert des Disasters. Hein. Il y a le groupe des Chiffons Rouges qui va venir. Il y aura un petit peu de hip-hop avec Aboubacar, qu'on connaît bien à la CIMADE. Et donc, voilà, c'est le 7 janvier. Et on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Et ça a lieu où ?
Au centre des expositions à Nevers. L'entrée, 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les petits.
Donc, merci beaucoup Claude, Brigitte et Mariana. C'était très utile et très clair, même si ça reste quand même des situations très complexes qui sont confrontées à plusieurs critiques, difficultés, etc. Surtout au niveau sociétal. Donc, je vous remercie d'avoir consacré votre temps pour aider ces gens et de le toujours consacrer. Et j'espère que vos actions n'auront jamais de fin.
Ben, merci de nous avoir reçus et puis d'évoquer ce sujet à la radio.
Merci.